On est à la fin de Corinthiens, de cette longue lettre, belle lettre, je sais pas comment vous l'avez vécu. J'ai pas eu l'occasion de prêcher sur chacun des textes, mais les textes où j'ai eu l'occasion d'être présent et de pouvoir méditer sur ce passage, sur ces passages, j'ai été interpellé. On est parfois bousculé. C'est une lettre qui nous a accompagné une belle partie de l'année. Lettre intense, parfois un peu passionnée. Parfois déroutante, on ne sait pas trop quoi en penser. Vous vous en souvenez, hein, j'espère, que peut-être l'un ou l'autre texte vous a interpellé. Paul n'a pas mâché ses mots parfois. Il a abordé des sujets costauds. C'est pas toujours évident de trancher. Il a parlé de division dans l'Église. Il a parlé de dérive morale. Il a parlé de désordre. Il a parlé de conflits autour de dons spirituels. Il a parlé de rôle d'homme et de la femme, de la scène, de la résurrection, etc. Plein, plein, plein de sujets, et c'est précieux. Et là, ce matin, on arrive au dernier chapitre. Et en le lisant, je me suis dit, bon, là, on est aux annonces de fin, de culte, de projets de voyage, des noms, des salutations, un mot pour Timothée, un clin d'œil à Apollos, des nouvelles de l'un à l'autre, hop, c'est fini. On est quelque chose qui concerne l'histoire de Paul, il y a 2000 ans. Mais en fait, en travaillant ce texte, on voit que Paul n'est pas juste en train de boucler son courrier. En fait, ce qu'il fait ici, c'est de nous ouvrir une fenêtre. Et c'est comme ça que j'aimerais nous encourager à le voir. Une fenêtre sur la vie réelle d'une église, de l'église, et de l'importance des relations. On l'a évoqué déjà plusieurs reprises au travers de la lettre de Corinthiens. Il va nous montrer que ce que c'est concrètement marcher ensemble, dans l'amour, dans la foi, dans le service. On pourrait dire un peu, c'est les coulisses. C'est presque la mise en pratique de ce qu'il nous a laissé de façon peut-être parfois pratique, théologique, tout au long de sa lettre. En fait, c'est pas ce qu'on met sur le devant du flyer ou des affiches, mais on va le voir dans cette fin de chapitre, combien c'est là que tout se joue, dans les relations, dans des relations simples. Et qu'on voit si une église vit pour Jésus, si elle l'aime généreusement. Ce message, je l'ai intitulé, si ça marche, l'amour généreux d'une église vivante. Paul nous emmène avec lui dans la suite, comme s'il nous disait, bon, maintenant qu'on a parlé de théologie, de conflit, de résurrection, voilà comment on va vivre ça ensemble, avec courage, avec foi, avec amour. En fait, ce texte, c'est un peu la bande-annonce du film, de la fin. C'est peut-être la bande-annonce de notre été, de notre rentrée, de ce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et avant de rentrer dans le texte, je vous propose de prier que le Seigneur nous ouvre les yeux sur sa parole, pas juste sur ce que Dieu est en train de faire à Corinthe, mais comment Dieu veut le faire aussi avec nous ce matin. Seigneur, merci pour ta parole et la richesse de ta parole. Aucun mot, aucune phrase n'est inutile. Tu l'as désiré qu'elle nous parvienne, qu'elle présente quelque chose de ta part, de ce que nous sommes appelés à vivre. Et c'est vrai comme quelque chose qu'on pourrait voir de banal, de salutation, de simplement de quelques commentaires liés au contexte de vie de cette église. Tu veux, bah, en fait, nous montrer le Dieu que tu es. Merci parce que tu veux te révéler encore à nous ce matin. Tu veux nous encourager à avoir un amour généreux, à être une église vivante pour toi. Seigneur, place dans ma bouche tes paroles. Seigneur, je veux honorer le texte, je veux honorer ce que toi tu dis et que cela te glorifie. Amen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un. On va lire, pardon, on va lire le texte. Donc on est au chapitre 16. Je vous invite à prendre le texte sous les yeux. Partir du verset 5. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas cette fois-ci vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il en aura l'occasion. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. L'amour généreux d'une église vivante. Alors vous savez, c'est un carnet de bord, un journal de bord. Il y a les pilotes, par exemple, qui tiennent un carnet de bord. Il y a les marins qui tiennent un carnet de bord, les astronautes aussi, les journalistes sur le terrain. C'est pas juste pour faire joli, pour garder quelques notes et publier plus tard un best-seller. Non, mais c'est pour noter les décisions prises dans le cadre de leur travail. Les itinéraires, les incidents, les liaisons radio, les échanges, les conditions météo, les ajustements de cap. C'est souvent très technique, ces cahiers de bord. Et pourtant, si vous en lisez attentivement les détails, vous découvrirez bien plus que des éléments de logistique. En fait, vous allez découvrir la vie d'un bateau, les relations d'équipage, les tensions, les encouragements, les moments critiques, les décisions qui ont été prises, les choix qui ont été faits peut-être sous la pression, les priorités qu'on garde malgré tout, etc. Et en fait, en ce chapitre 16, Paul, c'est un peu comme s'il nous ouvrait son carnet de bord, missionnaire, qui nous ouvre son cœur et qui veut surtout ouvrir le cœur de l'église de Corinthe à laquelle il s'adresse. En fait, à travers ces lignes, on va voir une église vivante, remplie d'amour généreux, qui agit, qui sert, qui prie, qui avance dans la mission. Alors je vous propose ce matin de suivre tout simplement ce que Paul nous dit dans ses projets, dans ses réflexions, dans ses amitiés, dans ses choix, et de voir ensemble quatre facettes très concrètes de cet amour généreux d'une église vivante. Alors le premier point que je relèverai, c'est aimer généreux. C'est aimer généreusement, pardon, il y a un problème d'affichage, je pense sur l'affichage qui n'est pas complet. Aimer généreusement dans ses priorités. Aimer généreusement dans ses priorités. On voit ça au début. On a vu tout au long de sa lettre que Paul, il aime cette église, mais il a été dur, hein. Il a été ferme. Parfois, il a été un peu plus tendre, mais il n'est pas passé par quatre chemins. Il a été toujours centré et attaché à l'évangile. Il a toujours vu leur bien véritable, l'honneur de Dieu. Et là, en arrivant à la fin de cette lettre, il est très concret. Semaine dernière, vous avez lu « Mettez de côté vos dons le premier jour de la semaine. J'enverrai des lettres. » Ce matin, on lit « Je vais traverser la Macédoine, je vais rester à Éphèse, par exemple, accueillir Timothée, Apollos viendra plus tard. » Franchement, je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça place dans le texte ?» De voir ces liaisons, de voir ces moments. Le contraste est assez frappant entre ce chapitre 16 et le chapitre 15 qui était sur la résurrection, sur quelque chose de théologique. Mais c'est précieux, mes amis, que ces choses-là sont présentes. Parce que ça nous montre une chose essentielle, l'amour généreux qui ne se résume pas juste à des émotions, à de bonnes intentions, mais qui se manifeste dans des choix concrets, des priorités réelles que Paul est en train de nous montrer, des décisions d'une vie qui s'aligne sur l'Évangile. Paul, il aime cette Église en organisant sa vie pour les autres. Je le disais, hein, l'Église de Corinthe lui a donné beaucoup de soucis, du fil à retordre. Il y a eu de la division, il y a du péché, il y a des critiques injustes. Moi, je me suis dit, une église comme ça, moi, je mets pas les pieds. Je vais pas me faire du mal. Et pourtant, Paul dit quoi? Je vais venir. Pas simplement passer, mais je vais passer du temps avec vous. Peut-être même l'hiver. Il ne fuit pas. Il reste engagé avec cette église qui, franchement, qui n'attirerait pas. Il prévoit de venir les voir. Il veut être présent. Il veut donner du temps. Il veut partager sa vie. L'amour généreux, ce n'est pas l'amour à distance. C'est l'amour qui prévoit du temps avec eux, même si c'est pas facile. Corinthe est une église qui pourrait en repousser plus d'un. Et Paul y dit, j'espère rester quelque temps, si le Seigneur le permet. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit, je vais passer ici. Non, il reste humble, il est dépendant de la volonté de Dieu, si le Seigneur le permet. Paul, il a un amour généreux. Et il le montre de façon intentionnelle. Il organise son voyage. Il n'est pas en train de filer à l'anglaise. Il ne passe pas en coup de vent. Malgré les problèmes, malgré les tensions, il est prêt à prendre du temps avec ses frères et sœurs. Et les derniers mots de cette lettre le démontrent. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Un amour généreux, c'est ne pas mettre de la distance, mais c'est d'aimer de façon très concrète, malgré les tensions. On arrive à l'été, les vacances, les déplacements, les temps à la maison. Quelles sont les priorités? Que révèlent les priorités qu'on a mises pour nos vacances? Que révèle de l'état de notre cœur? On va se reposer, bien évidemment. C'est un cadeau de Dieu. Mais est-ce qu'on va chercher encore des occasions dans nos priorités à servir, à encourager, à aimer? À peut-être visiter une église si vous êtes dans une autre région de France, à offrir un café à quelqu'un, à lire un bon livre chrétien, à avoir une conversation profonde avec quelqu'un. Ça, c'est être intentionnel. J'ai un amour généreux, ça se monte. Si j'ai un amour généreux envers mes frères et sœurs, si j'ai un amour généreux envers mon Seigneur, ça se voit dans mes intentions, dans mes priorités. Quels sont les projets que vous faites peut-être pour la rentrée? Ça démontre là où vous avez votre amour. Aimer généreusement, c'est pas juste ressentir quelques émotions, mais c'est réorganiser sa vie, ses priorités. Paul, il est prêt à se dire, je reviens vous voir pour le bien. On voit aussi dans ce texte que ses priorités sont peut-être parfois aussi différentes. Paul aime rester là où Dieu l'appelle, même si c'est difficile. On le voit les versets 8 et 9. Paul, il indique que pour l'instant, les priorités sont d'être resté à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'une porte n'y est largement ouverte pour un travail efficace. Paul parle, il a ici sa priorité, il y a une opportunité que le Dieu lui donne de servir et de partager l'évangile ici, pour l'instant encore à Éphèse, avant d'aller à Corinthe. Et ça semble idéal, une porte est ouverte. Et jusqu'à ce qu'on lise la suite, je reste à Éphèse, mais les adversaires sont nombreux. Ses priorités restent les mêmes. Il sait que Dieu lui donne du fruit, il y a des gens qui lui en veulent du mal, il se dit, peut-être que c'est pas l'endroit où Dieu voudrait, je vais les laisser tomber, non. Sa priorité, c'est l'honneur de Dieu, il les aime, ces Éphésiens, qu'importe les adversités qui se déchaînent. C'est un bon rappel, je crois aussi, pour une manière de voir la volonté de Dieu. C'est pas le chemin toujours le plus facile, mais c'est le chemin le plus fidèle à la personne de Christ. Ça passe par une porte ouverte, même remplie d'opposition. Il ne cherche pas la facilité, il cherche la fidélité dans ses priorités. Il cherche l'évangile, l'avancement du royaume, le salut des hommes. L'amour généreux ne cherche pas son confort, mais cherche les priorités du Seigneur. Quand on voit Paul, on peut penser à Jésus. Dans Luc 9, par exemple, il est écrit que Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Oui, ses priorités, c'était « je dois me rendre à Jérusalem ». Mais il savait pertinemment ce qu'il allait l'attendre à Jérusalem. L'opposition, l'arrestation, la croix, la mort, la souffrance. Pourquoi il y allait quand même? Mais par amour pour nous, par fidélité à la mission que lui avait confiée son Père. Parce que c'était la priorité de son ministère. Son amour se montre généreusement dans la manière dont on montre nos priorités dans la vie. L'amour véritable prend des décisions même difficiles pour le bien des autres. C'est pas le confort qui guide ses choix, c'est la mission et l'amour envers son Dieu et ses prochains, son prochain. Mais on voit aussi que Paul, il aime généreusement dans ses priorités avec beaucoup de souplesse et de discernement. Ce qui frappe beaucoup dans ses paroles, c'est l'humilité, la simplicité avec laquelle Paul parle de ses projets. Paul, il n'a pas des grands discours prophétiques comme parfois on peut l'entendre. Il reste soumis à la main souveraine de Dieu. Il dit simplement, s'il est possible que je séjourne, j'espère rester quelque temps, si le Seigneur le permet. C'est pas du tout l'attitude de quelqu'un qui impose sa volonté, qui revendique une révélation spectaculaire dans ses intentions. Il reste ouvert à la direction de Dieu. Parfois on voudrait, je ne sais pas comment vous voyez la volonté de Dieu, mais parfois on voudrait un GPS bien calibré, avec un itinéraire précis de la volonté de Dieu. Mais bien souvent, la volonté de Dieu, c'est plutôt une boussole où on avance un pas à la fois. Par la foi, bien sûr, tout en restant ouvert à comment Dieu va diriger les circonstances, avec un seul objectif, d'aimer généreusement dans ses intentions, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. En fait, on voit dans ses réflexions autour de son voyage, on voit combien Paul aime généreusement et comment cela influence ses priorités. Et je crois que ça doit être la même chose aussi pour nous. Mais Paul n'est pas seul. Une église vivante, une église qui aime généreusement, c'est une église aussi où les ministères se soutiennent les uns les autres, où l'amour se manifeste par la collaboration et la confiance mutuelle. C'est ce qu'on voit dans le deuxième point, c'est d'aimer généreusement dans le soutien des ministères. Paul y continue son carnet de bord dans les versets 10 et 12. Et cette fois-ci, il ne parle plus de lui, mais de ceux qui servent avec lui. Et c'est un point très important. Aimer généreusement, c'est soutenir aussi ceux qui servent. Ceux qui se lèvent pour l'œuvre de Dieu. Aimer, c'est accueillir et encourager ceux qui servent. Paul, au verset 6, il le dit déjà pour Corinthe, il se dit, mais si vous pouvez déjà m'encourager moi dans le ministère. Et ici, maintenant, il parle de Timothée, on sait un peu qui est Timothée, c'est son jeune compagnon, on pourrait dire le stagiaire de Paul, le stagiaire missionnaire, un homme qui n'a pas encore l'expérience de Paul. Timothée, on le sait, il arrive dans l'église de Corinthe, une église qui a remis Paul en question. Alors vous imaginez, vous êtes le disciple, enfin vous êtes le stagiaire de Paul, l'église n'aime pas spécifiquement Paul, enfin il y a certaines tensions, vous envoyez votre stagiaire. Autrement dit, Timothée n'a pas la tâche facile. Mais Paul, il anticipe, il protège, il dit, verset 10, « Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, que personne donc ne le méprise. » En fait, il y a vraiment une parole de protection fraternelle, paternelle. Et on le voit à l'écriture quand vous lisez les lettres de Timothée, par exemple, vous voyez cette affection qu'il a pour ce frère. Paul ne veut pas que ce jeune serviteur soit simplement toléré, accepté, mais Paul demande à l'Église de soutenir activement ce serviteur. Pas juste en l'écoutant poliment, mais en l'accueillant avec bienveillance, en le respectant et en soutenant son ministère. Aimer généreusement, c'est encourager aussi les Timothées d'aujourd'hui. Je me pose la question, nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on sait accueillir, on pourrait dire les stagiaires, ceux qui débutent dans leurs engagements, les jeunes prédicateurs, les ministères qui débutent, les responsables qui débutent? Est-ce qu'on les entoure d'encouragement ou est-ce qu'on les juge en silence? Oh, moi, j'aurais pas fait comme ça. Est-ce qu'on attend d'eux la perfection ou est-ce qu'on leur offre la grâce, un amour généreux? Une église vivante aime ceux qui s'engagent, même s'ils sont imparfaits, même s'ils débutent, même s'ils se plantent. C'est pas dans le texte ici, mais je tiens à vous le dire, vous l'avez fait avec moi, vous le continuez à le faire avec moi. Merci de m'avoir accueilli dans un ministère qui débute avec patience, avec amour jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, aimer généreusement dans le soutien des ministères. Mais on voit aussi dans cette partie-là que aimer, c'est soutenir au-delà de nos propres murs. On parle de Timothée, on parle de Paul. Paul va parler d'Apollos, un homme de valeur, qui était apprécié d'ailleurs par certains de Corinthe. Paul aurait aimé que cet homme vienne à Corinthe, mais Apollos préfère attendre. C'est pas le bon moment. Et ce qui est magnifique, c'est la réaction de Paul qui dit « Je l'ai beaucoup encouragé, mais ce n'est pas sa volonté maintenant, il viendra quand il aura l'occasion », verset 12. Là, on découvre aussi cet amour généreux sur l'amour entre les ministères. Aucun ressentiment, aucune pression, pas de rivalité entre Paul et Apollos. Contrairement à ce que l'église de Corinthe faisait. Je ne sais pas si vous vous rappelez au chapitre 1, où les Corinthiens se disaient « Moi, je préfère Apollos, moi je préfère un tel ou un tel ». Paul, il passe au-delà, il dit « Mais non, c'est des ministères au service du Seigneur ». Paul respecte la liberté de son frère. Il ne se place pas au-dessus, il ne dicte pas, il collabore. C'est ça l'amour généreux aussi, qui soutient l'œuvre de Dieu, même lorsque ce n'est pas votre ministère. Paul voit les personnes, les ministères, les églises comme une œuvre de collaboration, orchestrée par Dieu. Ce n'est pas une course à l'influence. En fait, une église en bonne santé, une église qui aime, c'est ne divise pas les uns contre les autres. Elle soutient l'unité de la mission, elle soutient sa diversité. Et là, ça fait écho à tout ce qu'on a vu dans Corinthiens. Elle l'appelle à voir au-delà de sa petite église. Est-ce qu'on a ce regard aussi, de cette œuvre plus large? Est-ce qu'on se réjouit de ce que Dieu fait ailleurs, dans d'autres églises, dans d'autres réseaux, dans d'autres pays, avec d'autres personnes? Moi, je suis encouragé cet été, on a encouragé, à ce que les enfants fassent cet été un parcours au travers de différents pays. Ils vont chaque dimanche voir un autre pays de ce monde et voir comment la foi peut être vécue. Ils vont découvrir tout un tas de pays. Et nous, est-ce qu'on prie, est-ce qu'on donne, est-ce qu'on bénit lorsque c'est pas juste pour nous? En ce début d'année, les responsables d'église, pour ceux qui sont membres, je vous rappelle, on vous a encouragé à voter un budget un peu plus conséquent pour la mission, pour les ministères. Parce que c'était ça. On veut voir au-delà de nos murs. Tout récemment, dans nos démarches sur nos propres bâtiments en conseil d'administration, on a décidé de mettre aussi à part une petite part de notre budget pour aider d'autres œuvres qui réfléchissent à construire aussi ou à agrandir leurs bâtiments. Parce qu'on ne veut pas réfléchir juste « Ben nous, oui, on a un projet ». Non, mais on veut voir l'œuvre du Seigneur plus loin. C'est intentionnel. En tant que responsable, voilà le cap qu'on veut montrer. Comme Paul, on veut soutenir les missionnaires, les missions, les œuvres au-delà de nos murs. Je réfléchis à la rentrée à nous encourager, nous, une église qui, on va pas se mentir, on est une église qui a une histoire, qui est stable. On va vous proposer probablement un parrainage d'une église en implantation en France. Une petite église, une petite communauté qu'on veut soutenir par la prière, peut-être par le lien, peut-être par une visite un jour, peut-être par un témoignage de comment eux, ils vivent l'Église dans une région de France où il n'y a pas d'Église. Nous, on a regardé pour cet été, là où on va aller en Auvergne, il faut faire 1h30 de route pour trouver une Église. On veut parrainer des Églises dans des secteurs où il y a moins d'Églises. C'est ça aussi, intentionnellement, le cœur, un cœur débordant, généreux, qui soutient, qui ne s'arrête pas à nos murs, qui dépasse notre confort, qui dépasse notre agenda, qui dépasse notre géographie. Et c'est ce que Paul encourage ici. Ma prière est-ce que Dieu envoie des Timothées, des Apollos, des serviteurs pour bénir son Église ici, mais bien au-delà. C'est ça, aimer généreusement. C'est vouloir que d'autres réussissent, c'est vouloir que d'autres grandissent, que d'autres rayonnent pour Christ et pour son œuvre, pour sa gloire. C'est vrai, une église vivante, c'est une église qui accueille, qui soutient, qui envoie, qui encourage. Elle ne met pas tout sur une seule personne, elle ne regarde pas qu'à ses murs, elle collabore, elle bénit, elle partage, elle sait que l'œuvre du Seigneur est bien plus grande qu'elle. Mais pour aimer ainsi, il faut plus que des intentions, il faut plus qu'une organisation, il faut plus qu'une stratégie des responsables, il faut une foi vivante, un courage spirituel. Une vigilance. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans ces versets 13 et 14 qui sont presque comme une clé où on voit qu'aimer généreusement avec courage et foi. On vient de suivre Paul dans ses choix, dans ses projets, dans son amour pour l'Église. Mais là, il s'adresse directement au cœur de l'Église. Il parle pas de logistique, il parle pas de ministère. Il parle de tout ce qui soutient le reste. Une foi vivante, un amour profond, un courage spirituel. Et il fait dans deux versets très courts, mais puissants. Je relis, hein, les versets 13 et 14. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. En fait, c'est comme un résumé de toute la lettre, là. Un appel à ne pas se perdre dans l'action, au point d'oublier la foi. Parce que oui, on peut faire plein de choses pour Dieu, sans les faire avec Dieu. Et c'est dangereux. Pas de vraies œuvres chrétiennes sans vraie foi. Paul remet les choses à leur place. Ce n'est pas d'abord ce que vous faites qui compte, mais c'est comment et pour qui vous les faites. On peut être très actif. Je sais, il y a des gens qui sont très actifs, qui bougent partout, qui ont plein de projets. Mais on peut avoir un cœur complètement déconnecté de Christ. Et c'est un vrai danger en été aussi. Le rythme va changer, les habitudes spirituelles se relâchent, on lève le pied. Mais notre ennemi, lui, ne prend pas de congé. Et si l'été était peut-être aussi pour nous un temps de recentrage, une bonne lecture spirituelle qui nous encourage, qui nous renouvelle. Je le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans une autre région. Prévoyez une visite, intentionnellement dans une autre église. Peut-être vous avez un moment de calme sous la tente. Ouvre ta Bible, parle au Seigneur. Même hors du cadre habituel, Dieu veut fortifier notre foi. Qu'on soit en famille, étudiant, retraité, seul ou entouré. Paul nous encourage à avoir un espace précieux pour écouter Dieu à nouveau. Plusieurs de nos jeunes vont faire des camps, des colos, des camps bibliques, que ce soit des temps où notre foi est fortifiée. Parce que Paul nous montre que, on le voit dans cette lettre de Corinthiens, qu'une église peut être bien organisée mais sans âme. Et c'est une tentation subtile. On peut avoir une église qui tourne bien, où tout est en place, où l'accueil est parfait, où il y a une bonne convivialité, mais où la flamme de la foi s'est éteinte. On sait faire, mais on ne veille plus. On est actif, mais on ne prie plus. On est actif, mais on ne prie plus. Récemment, on s'est retrouvé avec les responsables et on s'est dit, mais on n'est pas une église qui prie. On n'écoute pas Christ ensemble. Ça peut concerner tout le monde, hein. Moi, je l'ai vu en cette fin d'année, combien je peux vite être un bon gestionnaire de mon temps, de mes priorités, mais j'oublie l'intercession. J'oublie l'écoute du Seigneur. On peut être un serviteur discret qui s'épuise dans sa tâche routinière, qui revient dimanche après dimanche, sans se ressourcer auprès de son Père Céleste. Même l'église entière, hein, peut faire tout un tas de choses. On l'a fait cette année. On a fait de belles choses cette année. Mais on peut les faire en oubliant notre foi et l'amour envers notre Seigneur. C'est pour ça que Paul dit « Restez vigilants, tenez ferme, soyez forts. » Pas pour impressionner, pas pour performer, mais pour aimer et résister au vent contraire du monde qui pousse à nous endormir. Paul veut nous encourager à rester attachés à Christ. On connaît bien ce passage de Marthe et de Marie, hein, dans Luc 10. Marthe s'agite, elle fait plein de choses, elle s'active pour Jésus, mais Jésus lui dit « Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Regarde Marie, elle est là assise, elle veille, elle écoute, elle s'attache, elle reste vigilante. C'est une foi vivante, c'est une foi, un amour bouillant de s'attacher à Christ. L'amour, c'est l'arme spirituelle du courage. Paul conclut, hein, ces deux versets-là, que tout soit fait avec amour. Oui, il faut veiller, oui, il faut tenir ferme, oui, il faut être courageux, pas dans la manière du monde, dans la volonté de contrôler, dans la froideur, dans la peur, ou dans l'agressivité, mais dans l'amour, un cœur qui aime, un amour généreux, rempli de courage et de foi dans son Seigneur. Et c'est une foi solide, ancrée, lucide dans la souveraineté de Dieu. Si Paul appelle à la vigilance, c'est parce qu'il en est conscient. Parce que lui-même vit cette foi-là, où il a besoin. Regardez la manière dont Paul se soumet à la volonté de Dieu, où il veut rester vigilant. Verset 7, on l'a entendu, si le Seigneur le permet. Il veut rester ancré, à sa foi bien orientée. Verset 9, une porte m'est ouverte, mes adversaires sont nombreux. Il est conscient de ça. Paul est lucide, il sait que Dieu est souverain, que l'opposition est réelle, que la mission est belle et pas facile. Mais il ne se fait pas d'illusions, il veut rester ferme dans ses intentions d'aimer et de s'attacher au Seigneur avec foi, avec courage et surtout avec amour. Toute œuvre chrétienne, toute vigilance, toute foi n'a de sens que si elle est portée par l'amour. Mais cet amour, et c'est la fin de notre passage, n'est pas juste abstrait. Va se manifester dans des visages, dans des noms, dans des gestes concrets. Et Paul, à la fin de cette lettre, va nous le montrer. Il va monter des modèles de serviteurs, des personnes à regarder, des gens simples, des hommes et des femmes habités par cet amour généreux. Regardons ça encore ensemble, c'est le quatrième point. Aimer généreusement à la suite de serviteurs fidèles. En terminant cette lettre, Paul n'est pas impersonnel. Il cite des noms, il évoque des visages, il évoque des relations. C'est comme s'il voulait nous dire, vous voulez voir ce que c'est aimer généreusement ? Ben regardez ces personnes autour de vous. Regardez ces frères et ces sœurs. C'est des modèles vivants. Premier qu'il cite, c'est Stéphanas et sa maison. Que dit-il à leur sujet ? Je relis versets 15 et 16. Voici une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de cette région et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Voici l'essence même d'un amour généreux. Il se consacre au service des autres. Pas pour obtenir un poste, mais pas pour se mettre en avant. Et par amour pour Jésus et pour l'Église, ils se sont mis au service des autres, concrètement. Et Paul ne dit pas « admirez-les ». Il va même plus loin, je trouve que c'est très fort. Il dit « soumettez-vous à de telles personnes qui vous l'ont montré dans les attitudes. Soutenez-les, suivez leur exemple, appuyez leur ministère. » Ils l'ont démontré. Ce n'est pas ceux qui ont parlé le plus fort, mais c'est pas ceux qui brillent sur les réseaux, c'est pas ceux qui ont une révélation à partager que l'on doit suivre, c'est ceux qui ont servi fidèlement. Ce sont ceux qui aiment, qui servent, qui peinent parfois dans l'ombre de l'Église. Voilà un vrai modèle de quelqu'un service, serviteur. C'est quelqu'un qui transpire l'amour et de l'affection. C'est pas celui qui dit, oh, moi, j'ai fait déjà depuis 10 ans ce service dans telle église. Voilà. C'est pour ça que je fais cela. Non. Vous avez encouragé à réfléchir à la notion de diacre. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, ces derniers mois. On est en plein dans ce sujet. Qui sont chez nous les personnes qui se donnent du mal, qui se consacrent aux autres? Qui sont dans l'attitude de service? Ceux qui sont pas sur le devant de la scène. Mais qui portent l'église en silence. Quels sont ceux qui apportent la paix, pas le chaos et la division? Paul poursuit hein, et il montre Aquilas et Priscille. C'est un couple qui était connu de l'église de Corinthe parce que quand Paul était pour implanter cette église, c'était justement ce couple qui l'avait accompagné. Un couple qui avait ouvert leur maison à l'église, qui ont accueilli l'église chez eux. Un couple qui a voyagé, qui a encouragé d'autres églises. Et ici, on l'apprend, ils sont autre part. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent au bon souvenir de Corinthe. Ils vous saluent. Ils ont un amour généreux, un amour incarné, concret, hospitalier. C'est encore des applications très concrètes, hein. Que Dieu nous donne aussi d'être des hommes qui encouragent, qui saluons. Qu'on soit un homme, une femme, un couple, une famille. Ouvrons notre maison, ouvrons notre cœur, ouvrons notre agenda. Moi, je pense par exemple à André et à Chantal, qui ont accueilli les groupes des aînés pendant tellement d'années chez eux. Et à la fin de cette année, ils souhaitent passer le relais. C'est une bonne occasion de les remercier, de les honorer. Mais c'est aussi une occasion de se dire, mais est-ce que c'est pas l'engagement que le Seigneur m'appelle à ouvrir ma maison, ou mon temps, ou mes dons pour le bien de nos aînés? Certains, cet été, vont assurer la louange en comité réduit, vont assurer la prédication, la technique là derrière. C'est peut-être une belle occasion aussi cet été, alors qu'on va être peu nombreux peut-être, de les encourager, de les honorer, de les remercier. Si on envoyait un petit mot de remerciement à telle ou telle personne qui est en congé. Et si on profitait de ce temps un peu plus cool cet été pour visiter un aîné et discuter simplement, au frais, autour d'une bonne limonade, quelques heures, parce que quand vous discutez avec les aînés, ça dure. Si on se disait, Seigneur, à la rentrée, je veux aussi me rendre disponible, comme ce couple. Je veux me rendre disponible. Je veux aussi servir à mon tour. C'est ça, aimer généreusement. dans le temps que Dieu me permet, dans les dieux que Dieu m'a accordés. Là, on revient à ce que Dieu, Paul a dit dans les chapitres 12, 13 et 14. Mais le vrai moteur de cet amour, c'est Christ, la grâce de Christ. Comment aimer comme Stéphanas? Comment aimer comme Aquilas et Priscille? Comment aimer comme Paul, comme Timothée? Et la réponse, elle est au verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est pas par une volonté humaine qu'on peut aimer. C'est pas des gens qui sont naturellement généreux, mais c'est la grâce de Jésus, d'un amour qui a été gratuit, qui rend tout cela disponible, qui nous transforme, qui nous motive, qui nous rend capable d'aimer à notre tour. Et on est à la suite de serviteurs, modèles fidèles. Et par excellence, on a Christ qui nous a montré la manière d'aimer généreusement. C'est pour ça qu'il y a un peu cette parole un peu forte, hein. On pourrait se dire, ouais, Paul, il termine encore, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Ça secoue un peu, hein, en fin de lettre. Il n'est pas dans une formule de politesse, veuillez croire, mesdames, messieurs, à mes considérations les plus, non. C'est un peu un rappel, une vérité spirituelle forte. Si on refuse l'amour de Christ, le modèle, si on rejette sa grâce, on se prive soi-même d'être source de bénédiction, source de vie pour le reste, et on reste sous un poids de jugement. Dieu offre son amour, et ceux qui le rejettent choisissent le vide, la colère, et non pas un amour généreux. Une église vivante enracinée dans la grâce. Quand on regarde ce texte, c'est pas juste une simple conclusion administrative. On voit vraiment que c'est une fenêtre un peu ouverte sur une église qui aime généreusement, vivante. On y voit des visages, on y voit des décisions, on y voit des projets, on y voit des luttes, et on y voit un cœur qui aime Dieu avant tout. Paul ne propose pas un modèle abstrait, c'est du concret là. Il montre des vies qui sont transformées. Que celui qui a reçu l'amour de Christ est capable d'aimer généreusement dans la manière de revoir, de corriger, de considérer ses priorités, dans le soutien qu'on peut avoir envers les ministères, au près comme au loin, dans la vigilance que nous sommes appelés à avoir, dans la fermeté de la foi, dans le service concret, mesurable, humble, dans la reconnaissance des dons divers et variés que le Seigneur nous donne. Et tout cela ne vient pas de vous. C'est le projet de Dieu, d'un Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas nous qui travaillons pour Dieu, c'est le Seigneur qui travaille en nous et qui veut œuvrer parmi nous, par notre moyen, pour sa gloire et pour le bien du monde. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager. Je crois que cette conclusion de Corinthiens va ouvrir la saison de l'année prochaine. Je ne vais pas vous spoiler le mot d'ordre de l'année prochaine. Mais vraiment, j'aimerais nous encourager d'être débordant d'un amour généreux et qui se voit dans tous ces aspects très concrets d'une vie d'une église, d'une vie consacrée au Seigneur.